Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mort pour un orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de glace.
Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi. Moi du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt, pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Bonjour, coucou tout le monde.
Coucou.
Il est midi et vous êtes bien sur le 895 de la bande FM, Radio Dio, en FM et en stéréo, s'il vous plaît. Ou alors sur les www.radiodio.org. Et c'est parti pour une heure d'émission du numéro 0. Le numéro 0, un site internet à la base, un média alternao et participato, qui s'appelle le numéro 0, tout attaché, sans accent, point l'autre. .net, ça c'est l'adresse du site. Et donc voilà, alors aujourd'hui, au sommaire de cette heure d'émission, alors on va parler de lutte des classes, on va revenir sur le conseil municipal qui a eu lieu lundi 2 novembre à la mairie de Saint-Étienne, qui a été quelque peu houleux. Et puis nous allons ensuite passer quelques extraits d'une émission qui se nomme Basse Intensité. On en a déjà diffusé quelques extraits à l'émission numéro 0, ça nous est déjà arrivé. Et là, on en repassera quelques extraits à la fin de l'émission, et puis on finira par l'agenda. Et voilà.
La musique, comme tous les ans, est un reflet du régime politique et économique.
Bon ben, on va essayer de parler un petit peu de la lutte des classes. Pourquoi parler de la lutte des classes aujourd'hui? Et ben, parce qu'il reste encore, même si le capitalisme a tout aseptisé et tout ça, il reste encore quelques tensions qui sont liées au travail et au mode de production liées au travail et au mode d'exploitation. Et donc tout ça pour dire que c'est loin d'être fini. Et on voit ça tous les jours dans notre entourage, c'est d'actualité avec la crise et avec la crise actuelle. Bien sûr, il y en a qui disent que la lutte des classes. Maintenant, on peut plus parler trop de lutte des classes parce que voilà. Il y a les classes, la classe ouvrière ou le prolétariat a été intégré dans le capitalisme. C'est le capital humain, maintenant, c'est fini.
Ça n'existe plus, la lutte des classes.
C'est dépassé.
Voilà, c'est dépassé.
C'est un regard.
Voilà, donc on peut se dire, on a le choix entre ces deux petites versions-là, entre lutte des classes à fond et puis les gens qui disent, bon, bah, maintenant, il y a juste une classe intégrée dans le capital qui se considère comme capital humain. D'ailleurs, à Pôle emploi, on nous dit, ouais, faut savoir se vendre sur le marché du travail, donc on est bien des marchandises. Donc voilà. Et tout ça pour rappeler que voilà. Et donc il y a un petit extrait, un petit montage audio sur euh, sur un petit peu théorique, un petit peu lourd, un petit peu à entendre. Un petit peu sur ça.
Un peu dur à digérer, tu veux
ouais,
dire.
Ouais, je veux dire, c'est un peu des. C'est du monocorde. À vous de voir.
Si ça veut bien marcher.
La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l'on consent généreusement à leur donner s'ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu'ils devront servir. Nous sommes aujourd'hui devant une classe totalement asservie, mais qui ne le sait pas, ou plutôt, qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte, qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l'on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. L'habitat dans lequel s'entasse cette masse servile est à l'image de leur vie. Il ressemble à des cages, à des prisons, à des cavernes. Mais contrairement aux esclaves ou aux prisonniers, l'exploité des temps modernes doit payer sa cage. La marchandise, idéologique par essence, dépossède de son travail celui qui la produit et dépossède de sa vie celui qui la consomme. Dans le système économique dominant, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui détermine la demande. Toutes ces marchandises, distribuées massivement en un laps de temps très limité, modifient en profondeur les relations humaines. Elles servent d'une part à isoler les hommes un peu plus de leurs semblables et d'autre part à diffuser les messages dominants du système. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire se vendre. Le système dominant a fait du travail sa principale valeur. Les esclaves doivent travailler toujours plus. Aucun moment de son quotidien n'échappe à l'emprise du système. Chaque instant de sa vie a été envahi. C'est un esclave à temps plein. Thank you.
Le 2 novembre 2009.
Ah bon, non.
Ah non.
C'était pas ça.
Et donc voilà, c'était un petit documentaire montage vidéo extrait, où il y avait des extraits de du film reportage de la servitude moderne, mixé avec un petit peu la société du spectacle de Guy Debord.
Je croyais que c'était un extrait de La Petite Maison dans la Prairie.
Ouais, c'était un petit peu un petit mix, c'était une réactualisation. Voilà, tout ça pour enchaîner sur un petit peu la lutte des classes dans la région, sur ce qui se passe un petit peu, sur les aliénés, comme dirait certains. Et donc, la grève d'aujourd'hui à Roanne, des agents de la Star, les agents, enfin, les chauffeurs de bus de Roanne.
C'est l'équivalent de la Stas à Roanne, ouais.
Voilà. Et donc, ils sont en grève. Pourquoi ? Parce que, bon, les conditions de travail, trottoir trop haut, rond-point trop étroit, gendarmes couchés non réglementaires, pause annulée le dimanche, toilettes abîmées. Donc, ça a l'air un peu bénin comme revendication. Mais il faut, c'est, voilà.
En même temps, déjà, quand tu bosses, souvent, c'est pas évident, mais c'est... Enfin, si en plus tu tapes des conditions de plus en plus merdiques, c'est toujours ça de s'organiser ensemble pour protester, quoi. Ça va mal, moi.
Sachant qu'ils ont déjà fait une grève le 6 octobre dernier, et je pense que c'était une grève nationale de tous les chauffeurs et transporteurs, je pense, publics. Et puis à ce moment-là, ils étaient un peu vénères, et il y a le délégué CGT qui est avec sa belle citation, la cocotte minute est en train de bouillir, il se pourrait qu'un conflit éclate. Donc pour dire que bon, la lutte des classes dans tout ça, c'est loin d'être fini. Sinon,
on peut aussi rappeler que à Lyon, il y a eu une grève aussi des TCL, des transports en commun lyonnais, qui a été assez dure avec. Ils ont perdu, mais ça va recommencer là pour le 8 décembre. Donc.
Ah voilà. Ouais.
Ils ont perdu aussi des bus, apparemment.
Oui, ils ont perdu des bus, oui. C'est un entrepôt qui a brûlé.
Ouais, puis apparemment, là tu disais, ils ont supprimé la pause du dimanche.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est quand même... alors oui, c'est peut-être pas super révolutionnaire, mais... De faire des mobilisations comme ça, mais c'est vrai qu'on voit que dans plein de secteurs du travail, on grignote des heures de pause, des horaires qui deviennent tout et n'importe quoi, et qui justement créent ce que je sais plus quoi, les autres médias, ils appellent le malaise au travail ou je sais pas quoi, en tout cas qui sont intenables, et c'est la moindre des choses de se bouger, d'en profiter pour pas se laisser faire, quoi.
Sachant que là, en ce moment, les conditions de travail, tout ce qui est conditions de travail, c'est un petit peu à la mode, parce que bon, il y a les suicides, il y a les tous les gens qui se plaignent, alors mal de dos, mal de ceci, arrêt maladie, tout ça, plus les suicides de France Télécom.
En tout cas, pour revenir à la Stas, je pense que ça peut être l'occasion de rappeler que les transports pourraient être gratuits, ce serait cool. Et que, en tout cas, à Roanne, à un moment donné, c'était la mode. C'est arrivé à Saint-Étienne, c'est arrivé dans des grandes villes comme Lyon et Saint-Étienne, mais c'est arrivé aussi à Roanne, une petite ville quand même, qui a priori on pouvait pas penser que ça allait arriver, mais en fait c'est arrivé. C'est des suppressions de lignes en fait en fonction des taux d'occupation qu'il y avait dans les bus. Et moi, je sais que quand c'est arrivé à pointer son nez à Roanne, il y a quelques années de ça, je me suis dit quand même, quoi, même à Roanne, ils font ça, rentabiliser des lignes. Bon, c'était quand même. Mais ça fait écho aux conditions de travail, du coup, parce que forcément, s'il y a une suppression de lignes, il y a une suppression de postes, forcément. Enfin, voilà. Mais vive les transports gratuits, quand même.
Voilà, et toujours, donc, toujours la même logique, un peu. Un peu du profit et puis de la rentabilité. Et puis aussi, voilà, c'est... Donc, la lutte des classes est à Roanne, aujourd'hui, le 5 novembre.
Bah, souhaitons-leur une belle grève, hein.
Sinon, ensuite, Firmini. Alors, on a appris une mauvaise nouvelle. Vous savez, il y a eu le jeune qui est mort en cellule, en garde à vue, au mois de juillet. Et ben là, son frère, là, vers le 22 octobre, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, donc 4 mois ferme, pour des histoires avec la police. Alors, on ne sait pas trop, on sait pas plus que ça, mais bon. Il y aurait eu des contrôles ou il y aurait eu un abus dans les contrôles d'identité ou enfin des incidents avec la police, on ne sait pas plus que ça, mais du coup c'est quand même assez triste parce que quelques mois après la mort de son frère, ben, le frère se prend de la prison.
Et t'en sais pas plus sur ce qui s'est passé, les conditions de l'arrestation et tout ?
Bah apparemment, c'est bien sûr, c'est un petit peu ce que racontent les flics et tout ça. C'est bon, il y aurait eu plein de dépassements. Alors non, c'est pas trop, pas plus que ça. Ouais. Et donc voilà.
Moi, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est les témoignages en fait qui circulent, même si je trouve dommage qu'ils circulent pas plus. C'est notamment sur la vallée de Londaine, donc genre en gros entre Laric, Le Chambon, Firminy, il y a pas mal de jeunes apparemment qui disent qu'ils se font contrôler très 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 souvent par la police et que ça se passe souvent mal. C'est une espèce de, une sorte de harcèlement. Ils ont plein de soucis. C'est comme systématique en fait. Et ça, c'était déjà avant la mort de Mohamed Benmouna en juillet. Et en fait, je trouve que si on regarde les choses sous cet angle-là et qu'on connaît un peu plus ce qui se passe, on comprend les choses d'une autre manière. On comprend mieux pourquoi ça a pété. On comprend mieux plein de choses. Et d'ailleurs, comme ça, j'en profite pour faire une petite annonce. C'est qu'il y a des gens de l'émission Papillon. C'est une émission qui est sur Radio Dio, qui est sur l'enfermement et la prison, qui espèrent un jour recueillir ce genre de témoignages, en fait, sur comment ça se passe avec la police, notamment dans la vallée de Londaine, mais aussi ailleurs, parce que quand même, ça se passe un peu partout pareil. Sauf que ça dépend si c'est dans les quartiers riches ou les quartiers pauvres, quoi, mais...
Et puis, en fait, oui, voilà, en fait, il y a eu, c'était apparemment son quatrième contrôle d'identité en quelques jours. Donc, pour dire que, aussi, c'est pas anodin, ça, c'est pas juste, sachant que, voilà, c'est caractéristique, cette gestion un petit peu de cette classe-là, des personnes un petit peu qui sont mises à l'écart de la civilisation ou des centres urbains, des grands centres urbains. Et voilà, et puis la surveillance, forcément, est accrue, et d'autant plus accrue sur eux que ça représente un petit peu, entre guillemets, une population à risque. Et bien sûr, c'est normal, quoi, parce que bon, les gens, enfin, risque pour les méchants, quoi, mais pas pour les gentils. Donc, bah oui, parce que voilà, quand on met des gens à l'écart, qu'on les stigmatise, plus. Voilà, et voilà, c'est ségrégation géographique, plus ethnique, plus. Par rapport à la précarité, à la condition de classe, quoi. Parce qu'on est pauvre, alors on est rejeté un petit peu dans les bas-fonds. Enfin, c'est pas les bas-fonds, mais à l'écart un petit peu de tout ça.
Ouais, mais d'ailleurs, on verra tout à l'heure que même au centre-ville, et à savoir à la mairie, il y a des gens, il y a des populations à risque aussi.
Ouais, il y a des voyous au même conseil dans les municipal. Sinon, ouais, alors, pour une petite transition aussi, il y a aussi la semaine dernière, mardi dernier, il y avait une manifestation dans la vallée du Gier, suite à l'annonce de la suppression de plus de 600 postes, plus de 600 emplois entre ce qui est appelé entre Siemens et ThyssenKrupp à Mavillors et à Saint-Chamond. Et donc il y a eu apparemment 2000 personnes qui ont manifesté leur soutien contre ces suppressions d'emplois et ces relocalisations qui sont prévues pour le premier semestre 2010. Et tout ça, c'est dans la vallée du Gier, entre Saint-Étienne, entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier.
Et ils ont envie de mettre des bonbonnes de gaz aussi ?
Ils en sont pas encore là, mais je pense que... Parce que voilà, la région, enfin la vallée du Gier est en train de se désertifier un petit peu, et du coup, en ces périodes de crise, ils morflent un petit peu, quoi.
En tout cas, s'il y a des gens qui sont concernés par ces luttes et qui participent un petit peu, qui ont envie de venir en parler, on peut rappeler que numéro zéro, le micro est ouvert et que vous pouvez nous contacter à l'émission. On a un mail, emissionradio@fastmail.net. Et moi, je serais chaud pour en parler un jour dans une émission. Du coup, s'il y a des gens qui entendent ce truc et qui sont motivés par en parler, et ben voilà, le micro est ouvert.
Et de la même manière, sur le site internet du numéro zéro, il est possible et même fort recommandé de publier soi-même ses articles et faire soi-même son info. Donc si vous faites des grèves, des mouvements, des actions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler vous-même, à l'annoncer, à le raconter, à publier des photos et tout. C'est vraiment le but du numéro zéro.
Et pensez à lire la charte d'utilisation du site avant, éventuellement.
Ah oui, c'est pas pour les partis politiques, par exemple.
Ouais, c'est ça.
On écoute un peu de musique pour faire une petite transition.
La musique, comme tous les ans, est un reflet du régime politique et économique.
Réaction sociale. Réaction sociale. Réaction sociale. Face à l'esprit de facho.
Petit moment d'histoire, un discours de Dorothy en 1932, je pense qu'il nous remettra les pendules à l'heure.
Les intellects que nous électrisons, l'avantage est un précieux d'une confirmée.
Femme à leur garçon, à leur petite fille de temps à consacrer aux autres. L'individualisme en est la cause, entre autres. Matérialisme, esclavagisme, tous ces modes de pensée empêchent les humains de s'écouter. Soyons défaitistes et analysons. Nos emplois ne sont que des prisons de fer et de verre. Derrière les bouts de verre se cachent de superbes étoiles. Pour que les dociles ouvriers espèrent un jour les approcher, ce qui lui fait espérer et ainsi perdurer. Cette prison à première vue de verre est recouverte. À l'extérieur de cette prison, les grandes plaines sont vertes. À l'intérieur, tout n'est que grisaille et pétrole. Mais le fer n'est pas très loin, ainsi il est présent à chaque coin de rue. Nous sommes tous enfermés dans cette maisonnée faite de verre mais ferrée. À chacun de nous, de croire en ces étoiles qui brillent de partout, espérer jusqu'à en devenir totalement fou, croire que le travail mènera au bonheur, demander au cheval de la ferme s'il vous dirait cela avec le cœur. En cours de chemin, la plupart meurent en ayant connu en tout et pour tout que le malheur. Cette vie somme toute décente n'est qu'un leurre. La seconde voie, celle qui n'en est pas, consiste à nier ses belles étoiles et à l'aide d'un burin graver ses pensées sur ses vitres de fer et d'acier pour ensuite les casser à l'aide d'un bélier. Se rendre compte que ce qu'on prenait pour du verre n'était en fait que des tableaux habilement recouverts. Dehors, le même béton les attendait. Ainsi, notre devoir est de lutter contre cette société qui utilise des tableaux pour nous leurrer. Mais à partir du simple moment où tu te lèves et essaies de crier, une foule de gens te pose la main sur la bouche en te demandant de ne pas parler. Si tu refuses et hurles ce que les gens essaient de ne pas penser, tu te mets à dos tous ces empaffés qui ont été éduqués par leur télévision. Mais surtout, si tu rejettes la société de consommation, les berges te considéreront comme un loup qui tente d'arracher, de rendre carnivore les moutons sans jugement et arbitrairement t'abattront. Thank you.
des chasseurs qui tuent les loups.
Et voilà, donc en fait, c'était pas Durruti, parce que le CD il saute, désolé, c'était finalement LPI, mais c'était vachement bien aussi.
On le repassera une autre fois, le club Durruti.
Ouais, donc LPI, c'est un collectif hip-hop de Lille qui, en plus de faire de la super bonne musique et des bons textes, ils font des trucs à prix libre ou en téléchargement gratuit sur Internet et tout. Donc, ben voilà, donc nous avons parlé de lutte des classes. La transition n'est pas si facile que ça parce que moi, j'ai quand même du mal à expliquer ce que c'est la lutte des classes. Mais...
Bah, c'est plus quand il y a des opprimés et des opprimeurs ou des opprimants. Et bon, effectivement, là, c'est plus difficile d'en parler parce que tout est lissé en ce moment. Donc, il n'y a plus de ligne de démarcation entre aliénés et. Enfin, comment ils disent ? Exploités et exploiteurs.
Ouais. Mais par exemple, il y avait un dernier exemple qui était celui auquel on avait pensé là. C'était celui des étrangers et en particulier des Roms qui souvent dans ce système-là ramassent quand même vachement et c'est pas pour rien et ça rappelle un peu ce qui a été dit au conseil municipal ce lundi et pouf pouf comme ça j'arrive à faire ma transition.
Parfait.
Où enfin entre autres on va en parler plus longuement mais entre autres ça rappelle à un moment où le maire de Saint-Étienne, il s'est mis à parler des Roms, parce qu'il y a un squat où il y avait des Roms dont, en fait, ils ont quitté les lieux. C'était rue des Armuriers. Mais apparemment, ils n'ont pas quitté les lieux tout seuls. Ils se sont un peu fait pousser dehors. Et donc, le discours, c'était un peu, oui, nous, cette population-là, on peut pas la gérer. C'est à l'Europe et à l'État de les gérer. De toute façon, il y a des soucis, il y a des problèmes. En gros, il voulait pas dire il y a du racisme, donc il disait il y a des soucis.
Ouais, il disait il y a de la tension autour de cette population.
Et en gros, c'est ces gens, moi je sais pas ce que j'ai senti dans ce discours et qui m'a écœuré, c'est un peu ces gens, ils servent à rien, qui rentrent chez eux, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on voulait parler plus longuement de ce conseil municipal qui s'est passé lundi, et en fait, plus précisément, d'histoire d'expulsion à Saint-Étienne. Donc, en gros. Il y a un collectif qui s'appelle Que personne ne dorme à la rue, qui ont réquisitionné une ancienne maison de retraite qui s'appelle L'Ensoleillé pour permettre à des demandeurs d'asile d'y loger. On les a fait partir d'une manière un peu, pas une vraie expulsion, mais d'une manière un peu sournoise. Et par ailleurs, dans la foulée, l'immeuble occupé qui est au 10 avenue d'Enfer Rochereau, où il se passe plein de choses depuis plusieurs mois, a reçu le résultat de son jugement et c'est expulsion immédiate, ce qui s'est jamais fait à Saint-Étienne. Et même en hiver, et ben en gros, le discours, c'est vous allez dégager même en hiver. Donc ça, c'est un peu nouveau à Saint-Étienne pour certains, puisque pour les Roms, par exemple, ça fait longtemps qu'on les dégageait en hiver.
Ça se pose pas.
Et ce qui est de commun dans ces deux cas, c'est que la mairie est pas propriétaire, mais... partie prenante avec les propriétaires. Donc tous ces gens, ils sont allés au conseil municipal de lundi, ils sont allés s'exprimer, ils ont à peu près pas eu de réponse, ou ils sont bons, voilà. Et donc on va commencer par une petite interview d'un monsieur du collectif Que personne ne dorme à la rue, monsieur Bréas.
En 2009, lors de l'ouverture du conseil municipal de Saint-Étienne, le collectif Que personne ne dorme à la rue interpelle le maire et les élus. Plus tard, je discute avec Jean Berthéas, membre de ce collectif, qui m'explique qu'ils sont partis du constat que, selon les chiffres officiels, 40 personnes dormaient à la rue au printemps dernier à Saint-Étienne, 100 personnes en juin et 120 aujourd'hui, à l'entrée de l'hiver. Ils ont donc décidé de former une sorte de comité de vigilance et notamment, il y a une dizaine de jours, ils ont réquisitionné L'Ensoleillé, ancienne maison de retraite, pour y permettre à des demandeurs d'asile de se loger pour l'hiver.
Donc au nom de ce collectif, on a décidé, mais après avoir prévenu de multiples fois la préfecture, dont c'est le rôle d'assurer leur hébergement, la municipalité pour nous aider, on a décidé de faire une réquisition citoyenne à L'Ensoleillé, qui est dans le quartier de Montau à Saint-Étienne, pour loger ces personnes, en essayant d'être le plus responsable possible, c'est-à-dire de ne pas venir en grand nombre et puis d'envahir les lieux, mais de faire s'installer les personnes au fur et à mesure d'une occupation possible. La réponse qui nous a été, après avoir installé quelques familles, la réponse qui a été faite, ça a été la fermeture de l'ensoleillé pour des raisons de sécurité, après que la municipalité se soit engagée à rétablir l'eau qui n'était pas dans les locaux quand on l'a occupée, et l'électricité qui était déjà au moment de l'occupation.
Ok, donc l'électricité a été coupée, l'eau n'a pas été remise. Et donc les gens qui occupaient les lieux sont partis.
Je ne sais pas si on peut dire, et on a profité de leur absence parce qu'ils avaient un certain nombre de démarches à faire pendant la journée. La police municipale a fermé les lieux, a empêché que les gens rentrent. Donc ceux qui étaient partis n'ont pas pu rentrer et se sont retrouvés il y a 2 ou 3 jours, je ne me souviens plus exactement, à la rue pour la nuit, alors après avoir laissé un certain nombre d'affaires dans les locaux. Donc suite à ça, nous avons demandé une entrevue à la mairie qui a eu lieu, dans laquelle on assistait un petit peu à un dialogue de sourds, la municipalité nous expliquant qu'elle faisait le maximum dans leurs possibilités, en nous demandant aussi d'intervenir auprès de la préfecture, ce que nous faisons régulièrement et ce que nous avons fait simultanément. Et suite à cette intervention, donc c'est la suite de cette intervention que l'électricité a été coupée, etc. Donc on est revenu ce soir auprès de la préfecture où on a refusé de nous recevoir. Et puis ici en intervention auprès du conseil municipal pour reposer le problème. Et j'ai l'impression que nous avons reçu une fin de non-recevoir, puisque les arguments exposés ont été les mêmes que ceux de lors de la première rencontre. En attendant, eh bien, une centaine de personnes continueront à dormir dans la rue, mais on ne s'arrêtera pas là.
Ok. Vous, c'est quoi en fait que vous demanderiez à la mairie, à la préfecture ? C'est d'ouvrir des locaux ?
À la préfecture, on lui demande d'abord de remplir ses obligations légales. C'est-à-dire que les personnes dont on s'occupe sont des personnes qui légalement sont sur le territoire, sont en demande de papiers et en attente de ces papiers, tout à fait légalement. Et dans ce cadre, l'État est tenu de leur fournir un logement et de leur fournir de quoi survivre. Donc on demande à la préfecture de remplir son rôle. Pour le reste, ce n'est pas nous de faire le travail de la préfecture. Notre rôle, c'est de les soutenir. Mais comme la préfecture ne fait rien, on essaye de pousser les choses.
D'accord.
Au niveau de la municipalité, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais dans l'extrême urgence, il y a des choses qui sont sans doute possibles. Et on demande à la municipalité de nous aider, de nous soutenir, et en aucun cas on ne veut la mettre en difficulté.
D'accord, très bien. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter que ça continue bien ou mieux.
Que ça réussisse bien.
Que ça réussisse. Et où est-ce qu'on peut s'informer sur vos activités, avoir votre contact, savoir où vous en êtes ?
Étant donné qu'on est un certain nombre d'associations, on peut s'informer auprès des associations. À la lecture des journaux, le Progrès relaye beaucoup nos informations. À partir du réseau Éducation sans frontières, où les nouvelles sont retranscrites régulièrement, vous pouvez vous inscrire aux listes de diffusion par ce biais.
D'accord.
Ou à d'autres, le réseau de Solidarité Rome aussi. Enfin, on s'occupe un peu de tous ceux qui sont en difficulté dans leur logement. Là, on est dans l'extrême urgence.
Ok, d'accord. Merci bien.
Merci aussi.
Voilà, donc merci encore à Monsieur Bréas, membre du collectif Que Personne ne dorme à la rue, ils sont intervenus au début du conseil municipal de ce lundi, de novembre. Ils avaient demandé la parole au maire, ils l'ont obtenue. Ils ont par contre pas obtenu beaucoup de réponses. En gros, la mairie essaye un peu de se dégager de cette histoire sous prétexte de sécurité. En gros, ils veulent pas trop qu'on squatte leur bâtiment, quoi. Et donc ensuite, suite à ça, au début du conseil municipal toujours, c'est les squatteurs et leurs amis du 10 avenue d'Enfer Rochereau qui sont intervenus, donc de manière un petit peu plus spontanée, qui ont lu un texte. Voilà, Lionel, dans son magazine de mardi midi, a pas mal retranscrit tout ça, tout ce qui s'était passé au conseil municipal. Donc moi, j'essaie de vous... bah, de retransmettre un peu ce qui n'était pas trop passé là, mardi. Et bah, par exemple, entre autres, ce texte qui a été lu, bah, vu qu'il n'y avait pas de micro, on n'entendait pas trop. Donc bah, là, il va vous être relu. Et puis ensuite, on écoutera un petit peu de son d'ambiance de ce conseil municipal, parce qu'il y avait une tripotée de relous qui étaient là, qui voulaient des réponses et qui les obtenaient pas. Donc, entre autres, qui demandait à la mairie de se positionner contre les expulsions en hiver, et le conseil municipal n'a absolument pas répondu à ça. Donc voilà, on s'écoute tout ça tout de suite. Donc le texte des squatters et un petit peu d'ambiance au conseil municipal.
La semaine dernière a vu tomber le jugement du squat avenue d'Enfer Rochereau et l'occupation éclair des demandeurs demandeuses d'asile de l'ancienne maison de retraite L'Ensoleillé. Deux situations bien embarrassantes durant la semaine qui précède la trêve hivernale. L'un est expulsable sans délai et l'autre expulsé sournoisement. Dans les deux cas, c'est une même logique urbanistique qui laisse vide des bâtiments jusqu'à ce qu'ils soient juste bons à démolir. Dans l'exemple du bâtiment de l'avenue d'Enfer Rochereau, on expulse des habitants habitantes pour le raser et y faire à la place un rond-point ou agrandir la route, ou alors encore mieux dégager la vue de l'écrasante cité administrative. Il semble que la finalité des projets d'urbanisme de la ville de Saint-Étienne soit plus de rendre la ville compétitive et attractive pour les investisseurs plutôt que le bien-être des habitantes qui y vivent et y la font vivre.
Nous entendons dénoncer cet urbanisme de vitrine avec toute la mégalomanie qu'elle déploie. Laissez-moi dire des logements en bon état, jusqu'à ce qu'il soit juste bon à démolir, n'est pas cohérent avec les pseudo-consultations publiques sur le cadre de vie à Saint-Étienne. Dans ces deux cas, la mairie est partie prenante puisque des élus locaux siègent au conseil d'administration de Métropole Habitat, propriétaire de L'Ensoleillé, et au conseil d'administration d'Epora, propriétaire du bâtiment rue d'Enfer Rochereau.
De plus, le manque d'espace collectif pour faire autre chose que travailler ou acheter, ainsi que les problèmes de logement pointés par ces occupations sont nuls. Ou en tout cas, sans aucune prise de position de la part de la mairie. D'autant plus que ce n'est pas les expulsions et donc les occasions de prendre parti qui ont manqué depuis le changement de municipalité. On a encore en mémoire l'expulsion brutale des familles roms de Montplaisir en juillet 2007. Il faut aussi quand même rappeler que la mairie possède un bon nombre de bâtiments vides et ce n'est donc pas l'espace qui manque pour faire de l'hébergement ou pour refiler à des associations.
Dans une ville où il y a autant de bâtiments vides appartenant à la mairie, il serait intolérable que des expulsions aient lieu divers. Nous venons ici pour demander aux élus locaux de prendre véritablement position quant à la trêve des expulsions cet hiver et proposer une trêve des expulsions en toute saison.
Expulsion.
Non, 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 aux expulsions.
ne nous laisserons pas faire. Des réponses!
On peut avoir des réponses, mais non!
Mais pas les CRS, juste des réponses!
Et par rapport aux expulsions!
On attend toujours!
Votre démocratie, elle parle que d'argent, là!
Des élus de gauche! Panique ton maire,
sois ta ville. Panique ton maire, sois ta ville.
Allez, mettons, c'est la place, là, s'il vous plaît.
C'est ça, la démocratie. C'est ça, la démocratie. Interrogez-vous, quand même.
C'est quand même d'accord. L'intervention n'est pas de bruit.
Non, mais il y a une question, ça veut dire quoi?
Ah oui, la question, on a répondu, on va répondre. C'est pas la peine.
Mais on va mettre dans le débat.
C'est normal.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a quel sens?
C'est tellement facile avec vous de
régler. On a affaire à quelle gauche? C'est quoi, votre démocratie?
Écoutez le maire, qu'est-ce qu'il a dit? On a écouté ce qu'on nous dit, qu'on a ouvert des logements supplémentaires pour la Charles Grillet, qu'on a ouvert des
Jacques.
Eh ben oui, attendez, c'est sur ça. Hein.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler de l'eau et d'électricité maintenant, Alain Soulier?
Qui vit dans le froid?
Électricité! Oh, électricité! Oh, électricité!
On peut vous faire confiance, là.
Vous pouvez écouter la jeunesse? La jeunesse,
la conscience de dire. Mais... On peut faire confiance, hein.
Des réponses!
Des réponses!
Ouais, c'est la fête!
Une question qui a été posée!
Il n'y aurait pas des sujets plus urgents à parler que du foot?
Il y a urgence!
On s'en fout, le foot, on s'en fout! Allez, on
il fait froid! Il fait froid! On veut une réponse! On veut une réponse!
On veut une réponse!
On veut une réponse!
On veut une réponse!
On veut une réponse!
Bonjour, toujours bonjour, vous êtes toujours écouté, toujours Radio Audio et vous écoutez toujours l'émission du numéro zéro. Alors voilà, après le conseil municipal de Saint-Étienne le dernier, là, c'était chaud. Eh bien, on va enchaîner, mais on va changer de ville et on va se retrouver à Marseille, là, pour le dernier quart d'heure qui reste. Et on a piqué les émissions à nos camarades de Radio Galère qui font une émission qui s'appelle Basse Intensité. et qui a existé pendant 2 ans et qui malheureusement est fini aujourd'hui. C'était la dernière émission là cet été en août. Donc là, on va passer. On a fait un petit sujet. On a fait une petite sélection de petits sujets légers sur l'écologie, les poubelles et tout ça. Là. Vous savez, nous autres, on aime les poubelles. Et donc voilà. C'était en juin dernier et ça donnait ça en gros.
Outrage numéro 6 de l'été 2009, incendiaire gratuit sur Lyon et ses environs, vient de paraître. On peut y lire des textes sur des occupations d'usines, un récit sur le mouvement étudiant à Lyon 2, une fiche pratique sur le vol d'électricité, le téléphone portable comme arme de l'ennemi, etc. Édito.
C'est parti. La grippe porcine est arrivée sur Lyon. L'alerte sanitaire, c'est comme le terrorisme. Une technique du pouvoir pour faire ressentir à la population que sans lui, elle est menacée. Sans la police et ses armes modernes, sans la pharmaceutique et ses vaccins, on meurt. Sécurité, protection. Travail psychologique, mais aussi vrai contrôle des corps. Au Mexique, la grippe renforce les autorités. Elles se sont attribuées le pouvoir de débarquer chez les gens pour les vacciner de force. En France, des stocks de vaccins sont prêts. Dans un même geste, le pouvoir interdit toute personne de porter des masques en manif et conseillera très fortement le port du masque en cas d'épidémie. Ils veulent conquérir nos corps, on verra ça. Ce texte nous a donné envie d'en remettre une couche à propos du fléau écologiste. Suite aux résultats des dernières élections, tous les politicards de service ont été pris d'une soudaine crise de fièvre verte. En fait, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà un moment que la société industrielle a compris que son avenir est dans la gestion de la catastrophe. C'est économiquement rentable et durable. Et puis, il n'y a pas mieux pour mettre tout le monde au pas. Vos papiers, s'il vous plaît, ordonnent les drapeaux sur les poubelles de Marseille. C'est pour la bonne cause. Avis de mobilisation générale pour sauver la planète. Enfin, pardon, disons plutôt pour sauver l'économie capitaliste et ses états. Face à l'imminence du désastre, tous les citoyens sont égaux. Et tous ensemble, grâce à des gestes simples et responsables, peuvent entretenir la machine. On va mettre un papier dans sa poubelle jaune avec autant de conviction qu'un bulletin dans l'urne. Deux textes, entre autres, reviennent sur le sujet.
Le Grenelle et son environnement, note sur l'écologisme d'État et le capitalisme vert, écrit en mars 2008 par le collectif contre la société nucléaire. On peut le lire dans cette semaine numéro 95 du printemps 2008.
Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable de René Rizel et Raïmé Semprin, paru chez l'Encyclopédie des nuisances en 2008. On en citera donc quelques extraits.
L'écologie a contribué à faire oublier les rapports d'exploitation et de domination. La lutte des classes est une nouvelle fois enterrée. Exploités et exploiteurs seraient enfin rassemblés au sein d'une grandiloquente union sacrée, face à un intérêt supérieur universel qui serait extérieur mais commun à tous. Outre la mystique unificatrice produite par ce mot d'ordre, l'objectif pratique est de créer une équivalence généralisée des responsabilités et donc des gestes que chacun peut et doit faire. Chacun, là où il est, devrait agir pour sauver la planète. Il s'agit une fois de plus de sauver le monde tel qu'il est et tel qu'il ne va pas. Quand ils disent « tri tes déchets », il y a la police des poubelles qui va avec. Quand ils disent « Vélib », il y a la localisation satellitaire, GPS, le puçage RFID, la pub de co, la carte de crédit qui vont avec.
Annoncer la catastrophe, c'est jouer avec les peurs, que ce soit l'accident nucléaire ou l'attentat terroriste. Un bon moyen de faire accepter plus d'État et de contrôle, plus de gestion, etc. Quand l'autorité de sûreté nucléaire communique sur les incidents nucléaires avec ce joli vernis de transparence démocratique, c'est pour mieux nous manger. C'est pour nous habituer, nous soumettre dès maintenant au fait d'être parqués, cantonnés, encadrés militairement. C'est ce qui se joue dans les simulations. L'individu est complètement nié. Il est manutentionné puis stocké, un cran de plus dans la dépossession de nous-mêmes. Dans la voix de ceux qui répètent avec zèle les statistiques diffusées par la propagande catastrophiste, ce n'est pas la révolte qu'on entend, mais la soumission anticipée aux états d'exception, l'acceptation des disciplines à venir, l'adhésion à la puissance bureaucratique qui prétend par la contrainte assurer la survie collective. Annoncer la catastrophe, c'est nier qu'elle est déjà présente. C'est se résigner à ce monde de merde, en se disant que ça pourrait être pire, et s'en remettre aveuglément à la science et au progrès.
Les vrais progressistes croient vraiment à la capacité technique des hommes à modifier notre ère géologique. Ils pensent pouvoir créer la nature après l'avoir détruite. Il faut, selon eux, mener une politique de grands travaux à l'échelle planétaire. Voici venu le temps de la géo-ingénierie. Ils remettent un prix Nobel à un savant fou qui veut injecter du soufre dans la stratosphère pour réfléchir davantage les rayons du soleil et ainsi faire baisser la température du globe. Contre le réchauffement climatique toujours, ils jouent avec des canons à eau de mer pour blanchir les stratocumulus et renvoyer les rayons du soleil. Ils veulent séquestrer le CO2 dans des gisements de pétrole épuisés ou sous les océans, etc., etc.
Une fois admis le but profondément délirant qu'est celui d'un contrôle total des conditions de vie, une fois ainsi abdiqué tout sens commun, aucun désastre ne suffira jamais à ramener à la raison le progressiste fanatisé. Il y verra au contraire un motif supplémentaire de renforcer le système technologique, d'améliorer la sécurisation, la traçabilité, etc. C'est ainsi qu'il devient catastrophiste sans cesser d'être progressiste. L'écologie est un moyen efficace de contrôle social. Ça travaille à notre résignation, corps et âme. On s'autodiscipline et en plus on y croit. Mais c'est aussi affaire de gros sous. C'est pas pour rien que la mafia napolitaine a fait main basse sur le business des poubelles. La gestion des déchets, l'industrie de la dépollution et du recyclage ne connaissent pas la crise. Le capitalisme a bien compris qu'en s'adaptant au discours écolo-bio-bio, son entreprise ne se portera que mieux. Total développe les énergies renouvelables et propres, dont le nucléaire bien sûr. Areva et EDF investissent dans l'éolien. Monsanto fait dans le bio en attendant les bio-GM. Alors oui, l'écologie, ça rapporte. Atemi, succursale de Lehman Brothers, proprio de la rue La République, surfe sur la vague de l'urbanisme durable. Pour attirer une nouvelle population friquée et responsable, les nouveaux logements seront économes en énergie, pourvus de panneaux solaires, d'éoliennes et le nec plus ultra, le toit végétal. Le bon citoyen demeurera toujours celui qui a du fric, celui qui a les moyens de manger bio, celui qui peut changer de bagnole tous les 2 ans. Les autres, à savoir les pauvres, n'en seront que plus méprisés et culpabilisés. Bref, l'écologie, c'est l'avenir, oui, mais le leur. Et ils voudraient qu'on y collabore docilement.
S'il n'y a pas de solution alternative, et s'il ne s'agit pas d'aménager ce monde, nous sommes loin de nier la réalité des désastres. Mais ces derniers ne sont pas plus écologiques qu'ils ne sont sociaux. L'imbrication réelle des rapports sociaux paraît aujourd'hui encore plus évidente que jamais. Dès que l'on se penche sur un problème, tout le reste suit. La question environnementale déborde sur la question migratoire, qui déborde sur la question carcérale, qui déborde sur la question sociale. Et ainsi de suite, jusqu'à ne plus être des questions séparées, mais une remise en cause radicale d'un monde qui se veut lui-même totalisant. Un autre texte.
Et voilà, et donc c'était un des textes lus de Basse Intensité, l'émission de radio de Marseille sur la radio Galère, qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, est toujours finie. Mais vous pouvez quand même les retrouver, les anciennes, sur leur site, sur l'adresse basseintensité.internetdown.org. Voilà, alors on est dans l'écologie, le catastrophisme et tout ça, et là on passe à la fiche pratique, les poubelles de tri et les ravages que ça cause dans nos têtes et ailleurs.
Un autre texte dont le titre nous parle, Poubelle la vie, revient sur les techniques de nettoyage et de contrôle de la ville et de nos vies. Alors qu'une nouvelle police de la propreté se pavane dans les rues de Marseille, ce texte anticipe ce qui se profile à l'heure de la mise au pas et au propre de Marseille. Bienvenue dans le monde merveilleux de la dictature écologique.
Carton rouge. La propreté à Lyon est affaire d'obsession. Tout ce qui n'est pas produit et labellisé par la ville est sale. Tout ce qui n'est pas à la bonne place est sale. Les procédures réservées aux clochards, aux prostituées, aux tags et aux papiers gras sont rigoureusement les mêmes. Les êtres ou les choses inappropriées à l'usage préconisé de l'espace public font l'objet d'une éradication systématique. Outrage l'avait déjà présenté il y a quelque temps, la brigade Environnement de Lyon est à la pointe du nettoyage urbain. Regroupant depuis 2007 une trentaine d'agents, elle est chargée de patrouiller en ville à la recherche des fauteurs d'incivilité, afficheurs sauvages et chiens déféquants sur le trottoir. Depuis le mois de mars, une nouvelle brigade lui prête main forte. Son rôle, vérifier immeuble par immeuble que le tri sélectif a bien été fait.
Les nouveaux héroïques messagers du tri sont chargés de prêcher, de responsabiliser, de mobiliser, de surveiller et de punir. À la première faute, un avertissement pédagogique est remis par courrier aux habitants de l'immeuble incriminé. On leur explique comment s'y prendre et surtout, pourquoi retraiter les déchets. Au second écart, c'est direct le carton jaune et la première réprimande. Le bac de tri est ostensiblement fermé aux gaffeurs et les habitants reçoivent en personne les messagers du tri pour un blâme domestique. À la troisième erreur, c'est le carton rouge, le hors-jeu. Le bac de tri est retiré jusqu'à nouvel ordre et les habitants se retrouvent fichés comme pollueurs patentés. Dans ce cas extrême, seule une démarche très motivée permettra à l'habitant de récupérer une poubelle de tri, dixit la mairie. Si la grosse commission n'a pas été faite convenablement, l'État se charge de punir. C'est la gifle et le redressement pédagogique. De ce point de vue, le retrait du bac de tri fait sérieusement penser aux mauvais points que l'on recevait à l'école, à ces punitions qui sont infligées aux enfants un peu trop remuants. Retrait de permis, radiation du RMI et de la CAF, confiscation du scooter. Ces punitions accompagnées de stages et de formations que l'on inflige à ceux et celles dont le comportement est jugé incivil. Ça fait longtemps qu'on a compris qu'à travers les banales injonctions relatives à la gestion de nos poubelles, se jouait un contrôle insidieux et fondamental de nos existences. Mais en passant de la surveillance du bon ordonnancement des bacs de tri dans la rue à celle du bon ordonnancement de notre propre poubelle, on passe du public au familier, du lointain à l'intime. Subrepticement, le contrôle s'installe au plus près de la vie quotidienne la plus triviale, dans l'angle mort des déjections. Subrepticement, il est demandé d'apprécier et de juger les sales petites affaires privées du voisin. La gestion du tri sélectif n'est pas négligeable. Elle figure l'ensemble d'un monde. Un monde fait de prescriptions bienfaisantes et d'obligations salutaires. Un monde terrifiant, où le geste le plus insignifiant de la vie quotidienne peut soudainement se transformer en objet de délit. Qu'on se le tienne pour dit, le nouvel ordre est environnemental.
Et voilà, donc surtout, triez bien vos déchets. On va clore cette émission avec un petit agenda annonce de choses qui se passent à Saint-Étienne ou dans le coin. Donc, première chose, demain, c'est la nuit de la radio. Donc, Radio Audio se présente. Les animateurs et animatrices présentent leurs émissions. Donc, tout ça, ça se passera en direct. Connectez-vous sur le 895 de Radio Audio ou sur internet www.radioaudio.org. À partir de 20h et jusqu'à je sais pas quelle heure dans la nuit.
Yo, toujours vendredi, petite annonce pour une réunion qui se déroule à la Bourse du Travail, salle 102, à 18h. C'est le collectif Sud Chômage qui organise ça, notamment pour préparer les marches contre le chômage et les licenciements qui vont avoir lieu dans toute la France la fin novembre. Ces marches contre le chômage passeront à Saint-Étienne le 1er décembre, à Firminy le 29 novembre, dans la vallée de l'Ondaine le 30 novembre et dans la vallée du Gier le 2 décembre. Du coup, voilà, si vous êtes motivé par filer un coup de main ou que cette dynamique intergratteur vous intéresse, allez à la Bourse du Travail, Sage 102, vendredi 6 novembre à 18h. Je vous file quand même le mail du collectif chômeur, c'est collectifmarche42sud@laposte.net. Et ils ont un site aussi, c'est www.pourdesdroitsnouveaux.org.
Alors, le lendemain, samedi 7 novembre, vous êtes cordialement invité à un resto végétalien sur la thématique du... Réunion, une bouffe réunionnaise, quoi, voilà, au squat du 10 avenue d'Enfer Rochereau. On vous rappelle que ce squat est expulsable du jour au lendemain, donc ça se trouve, ce sera demain l'expulsion, donc on verra ce qu'on fera.
Oui, mais surtout, on vous rappelle que ce squat n'est pas encore expulsé et est peut-être loin de l'être.
Oui.
Donc venez aux activités.
Et si vous voulez avoir des nouvelles ou je ne sais pas quoi, pour n'importe quoi, vous pouvez y passer, 10 avenue d'Enfer Rochereau, ou bien nous écrire, ou bien écrire à la boîte ste@squat.net. Et est-ce qu'on a le temps? On n'a plus le temps, hein.
Peut-être, en tout cas, il y avait une chose qu'on voulait préciser tout à l'heure par rapport au collectif que personne ne dorme à la rue, c'est que il y a les réseaux citoyens qui sont liés à tout ça, les réseaux citoyens de Saint-Étienne. Vous pouvez trouver leur site sur Internet et il est hyper fourni et hyper souvent mis à jour. Il y a plein d'articles, il y a plein de choses sur ce qui se passe dans le coin. C'est pas mal, quoi.
Voilà, et donc le site s'appelle Réseau Citoyen, au pluriel et tout attaché, je sais plus quoi d'autre, .org.
Tiret Saint-Étienne.
Ah oui.
Et ben, l'émission touche à sa fin.
Tout à fait. Donc elle sera rediffusée à 17h aujourd'hui. On se retrouve, nous, donc avec le numéro 0, dans 15 jours,
yo, jeudi et on,
à midi.
Et on finit avec une dédicace pour Momo, notre mère à tous. Yo Momo, elle est pour toi celle-là.
J'écris ça en période d'élection. Quand t'écouteras, ça sera Sarko ou un autre de ces cons. Moi je ne compte pas car étranger. Apparemment si je vote, je suis un danger. Merci pour quoi, 1000 euros par mois. Tu rigoles ou quoi? Honte à moi si je deviens comme ces bourgeois. Voici le schéma, à 20 ans chez les cocos et à 50 ministres chez les socialos. Attention aux anciens colmao devenus fachos. 68 à Bondo, c'est la pêche aux démagos. De ceux qui passent des barricades au restaurant chic squatté par de Richalo, comprends mon analyse. La gauche caviar tente constamment de maîtriser les jeunes de thèse qui s'organisent. Opportunistes, promesses électorales, ce candidat.